Axel Brun
et Patrick Subreville vous présentent
Les Aventuriers des Lettres.
Bonjour à tous, bonjour Gisèle.
Bonjour Patrick, bonjour à tous.
Et bonjour Philippe Pain.
Bonjour.
Bonjour à l'accordéon, bien sûr, c'est ce que vous avez entendu et savouré déjà tout à l'heure. Donc nous sommes
en présence,
une brise en bouche, voilà. Nous sommes donc en présence de Philippe Pain et de sa passion de l'accordéon.
Eh oui.
Il en a apporté 3 dans le studio, mais comme il ne rentrait pas, on les a laissés dehors. Mais enfin, la tête, l'esprit, le cerveau sont là et vont tout remplacer. Et nous allons passer une heure à de passion, de ravissement, grâce à vous. Merci.
On va essayer. Hein.
Mais bien sûr.
C'est mieux connaître cet instrument en plus.
Oui, c'est une sacrée histoire. Hein.
Voilà, donc vous allez commencer par vous présenter peut-être.
Eh bien, allons-y. Hein. Donc, il m'a présenté. Je m'appelle Philippe, bien sûr. J'ai 61 ans. Je suis marié. 3 filles et puis 5 petits-enfants. Je suis fils de paysan. Et donc, toute ma vie, je vais travailler au centre d'élevage à Césaria. En loisir, je vais faire du foot, comme beaucoup de jeunes au départ. Et le théâtre va arriver à partir de 1985. D'abord à Bourg. Je vais rentrer dans une troupe de Bourg. Et après, je vais monter la compagnie Coup de théâtre à Montagna en 1987. On va faire des pièces de boulevard et en 93, je vais donc monter le premier grand spectacle, La vie d'Édith Piaf. Ça sera un spectacle avec beaucoup d'émotion parce que c'est notre premier. On ne s'attendait pas à un tel succès et c'était une fabuleuse aventure. Ensuite, en 96, j'ai monté L'histoire d'un procès. Et puis, en tant que comédien, j'ai joué le rôle de Landru, qui a brûlé 11 femmes.
Oui,
c'était dans le spectacle de Xavier Lo, là, Xavier Lo, qu'on connaît bien dans la région pour ses sons et lumières en plein air et en salle. En dehors du théâtre, ben, je suis correspondant local de La Voix de l'Ain sur ma commune. Autrement, en passionné de défis, de randonnées, je vais réaliser le GR5 à pied de la mer du Nord à la Méditerranée. Ça, c'était en 2013. Donc 3 mois de marche et puis 2500 kilomètres. Et l'an dernier, pour ma première année de retraite, eh bien, j'ai fait le tour de la France à pied. Et là, donc en pratiquement un an, 7500 kilomètres. D'ailleurs, je vais faire prochainement une exposition photo de mon tour de France. Radio B peut-être l'annoncera. Dans,
bien sûr. Hein,
mais bien sûr.
C'est chose faite.
Voilà, alors la date n'est pas encore fixée.
D'accord.
Et aussi, en sport, ben, je fais du ping-pong avec l'USR à Revona. Donc... voilà, voilà.
Une vie bien remplie.
Vous bougez beaucoup, c'est bien.
Je bouge beaucoup, oui.
C'est bien. Un corps sain dans un esprit sain.
Voilà, alors si on en vient maintenant au sujet un petit peu. Et donc j'ai monté après un spectacle en 2002, c'était à Perona, sur l'histoire de l'accordéon. Un spectacle que j'avais appelé « La légende de l'accordéon ». Et derrière ce spectacle, eh bien, RCF, la radio locale de Bourg, m'a proposé d'animer une émission d'accordéon sur leur antenne, ce que je fais depuis 15 ans maintenant, où je montre l'accordéon musicalement sous toutes ses formes, alors du musette à la musique classique, du folk aux musiques du monde, voire musique actuelle. Ça, c'est dans cette émission que je vais raconter l'histoire de l'accordéon une première fois, Alors, c'est le scénario du spectacle que j'avais construit en 2002, que j'ai transformé en... que j'ai radiophonisé, on va dire ça comme ça. Et puis, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Je me suis dit, pourquoi ne pas en faire une conférence ? Alors... Le mot conférence, c'est peut-être un peu pompeux. Je dirais que c'est entre spectacle, conte, concert. Enfin, c'est difficile à trouver le bon terme. Moi, je dis souvent conférence vivante ou alors animation historique.
C'est voilà. Très bien.
Voilà, voilà. Alors, depuis quand j'aime l'accordéon ?
Depuis petit.
Hein, je dirais qu'il n'y a pas une véritable date de naissance de l'accordéon dans ma tête. C'était en moi depuis toujours. Hein, la sonorité de l'instrument m'attire, est ainsi. Hein. Dès qu'il se met en route, je suis en fait, c'est gai, c'est vivant. C'est...
Voilà, vous avez commencé par le musette, vous avez commencé par quoi ?
Alors le musette, oui. Oui, bien sûr, c'était le musette qu'on entendait dans les années 80.
C'est ça,
80,
oui.
Et quand j'ai fait mon émission, c'est Vanou qui me précédait dans l'émission sur RCF qui m'a dit « Mais pour ta culture, tu devrais aller chercher d'autres musiques du monde classique. » Ce que j'ai fait. Alors au début, j'ai craint un petit peu parce que l'oreille est habituée à ce qu'on entend depuis toujours. Et puis petit à petit, mon oreille s'est habituée et aujourd'hui, je suis accro avec toutes les musiques du monde. Je suis même
parce
un boulimiste.
Parce que même en classique, c'est super l'accordéon.
Ah oui, ah ouais, oui. D'ailleurs, en entrée, c'était Étienne Boidron. Mmh. C'est une œuvre belge, La vie s'écroule. On est entre tradition et puis musique classique. Hein.
C'est très riche.
C'est un petit peu comme un orgue portatif maintenant.
Et, c'est bien.
Et là, surtout qu'il jouait sur accordéon de concert. C'est pas comme l'accordéon du bal musette. Le bal musette, la main droite, c'est la mélodie. À gauche, les accords, alors que le clavier basse chromatique, c'est deux claviers identiques. D'accord. Et donc, l'accordéoniste crée ses accords.
Alors, il est né où, cet accordéon ?
Eh bien, c'est en 1829 qu'il est né, donc en Autriche. C'est Cyril Demian, avec ses deux fils, Karl et Guido, ils étaient associés, qui vont avoir l'idée de mettre un soufflet, enfin de greffer un soufflet sur l'harmonica.
C'est lui qui a déposé le brevet d'accordéon ?
Voilà. Qui a déposé le brevet à Vienne le 6 mai 1829 pour cet instrument. Donc c'est un harmonica qui est né quelques années avant. Il était né en 1820, l'harmonica. Et donc cet homme a eu l'idée de greffer un soufflet sur l'harmonica.
Oui, parce qu'ils ne pouvaient plus souffler. Ils en avaient marre peut-être de souffler dans l'harmonica.
Voilà. Oui, et puis après il s'est dit aussi que si le soufflet remplace le souffle de la bouche, on va pouvoir chanter en même temps.
Ah oui. Ah oui.
Et puis quelque part aussi la puissance. Le modeste souffle de la bouche.
C'est vrai, ça n'a rien à voir.
Ça n'a rien à voir. Mais si l'accordéon est né en 1829, en revanche, il y a une pièce à l'intérieur qui est l'anche libre. Hein, l'anche, c'est une petite lamelle métallique. Quand on fait passer de l'air dessus, elle
vibre. Ça vibre.
Eh bien, cette anche, elle existe depuis plus de 3000 ans avant Jésus-Christ. Hein, l'accordéon s'appelle le chen chinois. Et cet instrument est en fait, si on veut, l'anche libre est le départ de l'accordéon. Quoi.
D'accord. Et alors en France, ça s'est passé quand alors, à quel moment ?
Eh bien justement, ça n'est pas l'Autriche qui va le développer. Curieusement, dès l'année suivante, il va arriver en France en 1830. Sans doute apporté par des colporteurs qui traversent la Suisse. Tout ce qu'on sait, c'est que Paris va lui tomber dessus, le disséquer, l'analyser, le transformer. Et c'est de Paris qu'il va s'éclater sur toute l'Europe et le monde.
Ah oui ?
Alors, on dit toute l'Europe, mais curieusement, l'Italie va tarder de recevoir l'instrument.
Parce qu'ils avaient concurrence, il y avait de la concurrence avec l'Italie ?
Je ne sais pas si c'est la faute aux Alpes à franchir pour atteindre l'Italie. Tout ce qu'on sait, c'est que l'accordéon ne va pas arriver en Italie avant les années 1850. Mais alors, quand l'Italie va se réveiller, mamie, ça va être...
ça va être bouleversant.
Voilà, oui, vous allez voir. C'est passionnant. Alors, arrivé en France, donc, en 1830, les fabricants parisiens vont lui tomber dessus. Mais il y a surtout deux fabricants qui vont retenir notre attention, c'est Pichenot et Reissner. Pourquoi ces deux derniers ? Bien, parce qu'on a trace de leur querelle et que celles-ci vont avoir des conséquences vraiment inattendues sur l'histoire de l'instrument.
Ah oui, parce que c'était deux fabricants, mais ils étaient en duel, tous les deux.
Voilà, c'était les fabricants d'orgues, de pianos, ils étaient proches dans une rue parallèle et ils ne s'aimaient pas beaucoup.
C'était tous les deux des facteurs d'accordéon, mais ils ne s'entendaient pas du tout.
Voilà, ah non, ils ne s'accordaient pas du
tout. C'était la concurrence.
Oui, oui. Et d'ailleurs, justement... Pichenot va imaginer un système parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que l'accordéon de Cyril Demian, qui était inventé en Autriche, ne possède que 5 touches sur la main droite et 0 touche sur la main gauche.
Ah oui.
Et sur ces 5 touches, chaque touche produit plusieurs sons, des accords.
D'accord.
Donc chaque touche va produire de 3 à 5 tons, ce qui fait que cet instrument ne va pas pouvoir jouer une mélodie, mais accompagner une mélodie, les accords, d'où le nom. qui va couler de source, accordéon.
Accordéon, d'accord.
Et donc à Paris, le fameux Pichenot, lui, va le rendre plus mélodique. C'est-à-dire qu'il va remplacer les plaques donnant 5 sons de demi-an par une n'en donnant qu'un seul. Puis avec une plaque recto-verso, ils vont ainsi obtenir un son en tirant le soufflet et un autre en le poussant.
Dans les deux sens, en fait.
C'est le principe de l'accordéon diatonique,
le
système bisonore.
Oui, par rapport à l'accordéon chromatique.
Voilà. Alors bien sûr, Pichenot va avoir un gros succès avec ça. Reissner va être vexé, il ne veut pas en rester là. Il va rajouter des touches. Donc il y aura une octave chez Pichenot, après 2 octaves chez Reissner, puis 2 octaves et les demi-tons. C'est une surenchère de touches.
Finalement, ça l'a fait progresser, cette
oui,
lutte.
Ça l'a fait progresser, mais vous allez voir de quelle manière. Je vais vous lire une petite chose qui est parue dans une revue qui s'appelle Le Ménestrel. On est en 1834. L'article va apparaître le 1er juin 1834. C'est un article qui va vanter l'instrument de Reissner.
Ah, alors l'autre, il n'est pas très content.
Voilà. Eh bien, vous allez voir. Voilà ce que dit l'article. Signalons que l'instrument arrive de Vienne, que muni de ce soufflet, il possède plus d'énergie que l'harmonica. On pourrait croire que son jeu est assez restreint, ne pouvant dépasser les limites de quelques accords. Or, vous serez donc surpris d'apprendre qu'une nouvelle ère s'est ouverte à l'accordion grâce à la main habile de M. Reissner, qui a vu en lui un germe d'avenir. En 6 leçons, M. Reissner peut vous faire jouer de l'accordion grâce à sa méthode. Oui, parce que l'accordion, au départ, comme on est en Autriche, l'accordéon s'appelle accordion.
Oui, c'est
il y a
ça,
deux K, puis D-I-O-N. Ce n'est pas encore accordéon. Et puis l'article va se terminer. Bah, faites donc une petite visite à M. Reissner, Galerie Colbert, numéro 5. Alors le problème, c'est que cet article n'est pas signé. Il est anonyme. Et c'est là que Pichenot va rentrer dans une colère monstre. Et le 12 juin...
Il va répondre.
Ah oui, le 12 juin 1834, il va répondre à la revue, alors que je vais vous lire. Et cet article, cette lettre est apparue dans la revue. C'est pour ça que nous en avons la trace. C'est le 12 juin 1834. Alors il dit, l'article sur l'accordéon publié à la louange de M. Reissner contient plusieurs inexactitudes et je viens vous permettre de me permettre de les rectifier.
Voilà.
Cet instrument auquel j'ai rendu son nom allemand d'accordéon, D-E-O-N, que tous les fabricants d'ailleurs utilisent maintenant, M. Reissner ferait bien de se renseigner, et Stock.
Acquittez ce cas.
Voilà. Eh bien, cet instrument a été modifié sous ma direction et par mon technicien Isoard, seul capable de faire de bons accordéons. Reissner n'y est pour rien dans la vogue qu'a obtenu cet instrument et j'engage les personnes qui connaissent les instruments Reissner à venir faire la comparaison avec les miens, soit dans mes magasins, soit à l'exposition au pavillon numéro 4. C'est chaud, hein?
C'était très chaud, oui. Alors l'autre, il en est resté là, peut-être?
Non, c'est bien. Voilà. Reissner va donc réécrire à la revue en disant qu'il veut bien ne pas y être pour grand-chose, mais dire que Pichenot, lui, il y est pour quelque chose, lui qui ne sait même pas mieux jouer que ses élèves.
Ah là là.
Ça fait un petit peu des querelles de gamins, quelque part.
C'est ça, c'est dans la cour de récré, là.
Voilà.
Mais enfin.
Alors ça ne va pas en rester là. Ils vont aller beaucoup plus loin, ces deux messieurs. Et c'est là qu'on va voir les conséquences sur l'histoire de l'instrument. Reissner va être reçu par la princesse Mathilde, cousine du futur Napoléon III. Mais surtout, elle est grande organisatrice de salons mondains. Alors Reissner va vanter son instrument, l'offrir à la princesse et lui proposer sa propre fille Louise en concert à son domicile.
Ah oui, donc la porte était ouverte, là.
La porte est ouverte, mais Pichenot va la prendre. Et lui, vexé, lors de l'exposition dont il parle dans la lettre, là, que j'ai lue il y a quelques minutes, il va placer son stand sur le chemin du roi Louis-Philippe, qui va venir inaugurer l'exposition.
Donc il ne peut pas le louper.
Le roi Louis-Philippe va s'arrêter à son stand. Pichenot va vanter son instrument, puis lui offrir l'un de ses plus beaux modèles. Alors les historiens disent que c'est l'un des derniers fils du roi Louis-Philippe qui va se mettre à l'accordéon. Alors vous pensez bien que de la princesse Mathilde au roi Louis-Philippe, mais les conséquences sont immédiates.
Quelle publicité !
Mais c'est immédiat. Hein. Oui. L'accordéon va pénétrer les salons les plus brillants et les classes dirigeantes.
Toute la bourgeoisie.
Ah oui, à la recherche d'un instrument luxueux.
C'est ça, oui.
Capable de flatter leur clientèle. Alors il y aura du nacre, de l'ivoire, du cuivre ciselé, des caisses en bois noble sculptées, décorées. Même le soufflet sont tous plus décorés les uns que les autres.
C'était très riche, finalement, comme instrument.
Très riche. Ouais, oui. Et cet accordéon, il ne va être accessible qu'à une clientèle aisée, essentiellement féminin, de la noblesse et de la grande bourgeoisie.
Mesdames, déjà.
Bravo.
Eh oui.
Elles ont du flair.
Et l'accordéon va rester plus de 40 ans enfermé dans la bourgeoisie. Alors pourquoi ? L'accordéon, à l'époque, vaut le prix d'une calèche.
Ah oui.
Vous comprendrez qu'il soit hors de portée de l'ouvrier.
C'est ça,
du
c'est
paysan.
Très cher quand même. Ah ouais.
Donc vous voyez qu'on est encore bien loin de ce qu'on va appeler un jour le piano du pauvre.
C'est ça, parce qu'après, oui, longtemps après quand même.
Longtemps après, oui, plus de 50 ans, oui. Plus de 50 ans après. Alors comment il va se dépêtrer de ce milieu ? Eh bien.
Oui, parce que c'était un peu un milieu un peu bourgeois, donc c'était pas ouvert à tout le monde, ça.
Ah ben l'accordéon n'est pas ouvert à tout le monde par son luxe, quoi, part. Alors, comment il va se sortir de ce milieu ? Eh bien, il faut d'abord que je vous parle d'un autre instrument avant l'accordéon, qui est la musette auvergnate.
C'est ça, oui.
Cet instrument qui est ni plus ni moins qu'une cornemuse. D'ailleurs, quand on dissèque le mot cornemuse, musette, oui. Vous voyez, on n'est pas bien loin. Eh bien, cet instrument, les Auvergnats, c'était leur instrument fétiche. Ils allaient au bal de la musette, où il y avait des bourrées, des scottiges, des branles, des mazurkas, toute une flopée de quadrilles même. Et puis, en Italie, à Castelfidardo, de l'autre côté de l'Italie, au bord de l'Adriatique, eh bien, un futur fabricant, qui s'appelle Paolo Soprani, va s'amouracher d'un accordéon et le transformer. Et donc, va devenir l'un des fabricants fétiches là-bas, en Italie. Et bientôt, d'autres personnes vont suivre. Bientôt, il va y avoir 40 entreprises à Castelfidardo qui vont vivre
dans le village même.
Et puis bientôt 52 villes italiennes qui vont abriter 93 entreprises et qui vont exporter jusqu'à 800 000 accordéons, mais beaucoup plus tard. Alors, la différence avec la France, c'est qu'en Italie, ils ne vont pas faire de l'accordéon un objet de bourgeoisie.
Ah, ils vont simplifier quand
voilà.
même.
Très vite, l'accordéon, le peuple ouvrier et paysan d'Italie du Nord...
Vous pouvez s'y mettre.
Voilà, vont danser et chanter.
Ça sera plus abordable, en fait.
Beaucoup plus abordable, voilà. Et bien, naturellement, alors, à la France, cette histoire, la cabrette, la musette auvergnate, c'est bien beau, mais l'accordéon italien, c'est bien beau, mais la France... Eh bien, en 1880, ça va être le grand bouleversement économique, la révolution industrielle en marche. Paris va avoir grand besoin de main-d'œuvre française et étrangère, et c'est le grand exode. Ils vont venir de partout, de Bretagne, d'Alsace, des Corses, du Sud. Mais il y a surtout deux énormes colonies qui vont monter sur Paris. Tout d'abord, les Auvergnats, qui vont arriver par la gare d'Austerlitz. Et puis les Italiens qui vont arriver par la gare de Lyon.
Ouais.
Alors bien sûr, chacun avec son instrument. Les Auvergnats, leur musette, et puis les Italiens, l'accordéon. Et tout ce quartier va se retrouver dans la Bastille. Alors, on parlera un peu plus en avant tout à l'heure, mais puisqu'on parle de cabrette et accordéon, eh bien, on va écouter une petite valse du groupe DCA. Alors, ce n'est pas un groupe de l'époque, on est bien dans les musiques aujourd'hui, mais ils jouent une valse modale qu'ils appellent. On va l'entendre.
C'est drôle parce que comment on est passé d'un instrument noble en un siècle à un instrument presque ringard. dans les années...
Ah, ça, je ne sais pas si on peut bien le dire. Simplement qu'il est devenu moins cher. Donc, le peuple ouvrier et paysan ont pu l'acquérir. Et peut-être que la noblesse s'est dit, oh, bah, puisque maintenant, il est dans...
Hein,
et puis après, d'autres instruments sont peut-être arrivés
greffés,
aussi
pour
la bourgeoisie. Mais... Donc, voilà un petit peu pour cette partie donc, italo-auvergnat. Mais sauf que les colonies sont immenses. Parce que vers 1900, il va y avoir pas loin de 220 000 Auvergnats qui vont monter sur Paris. Et il y aura 150 000 Italiens. Vous imaginez la masse des populations que ça représentait. Et bien sûr, chacun avec leur culture, leur caractère, peut-être aussi. Donc, il va y avoir des blessés, des bagarres. Et même des morts dans des rixes parfois très violentes. Et, les Auvergnats vont avoir avec eux un ardent défenseur, Louis Baudet, qui est directeur de l'Auvergnat de Paris, le journal de l'époque. Il y a tellement des Auvergnats qu'ils ont créé leur propre, leur propre journal. Et à travers les lignes de son journal, il va défendre tous les opposants de la cabrette, dont l'accordéon, et écouter cette succession d'articles. Alors, j'en ai 4 ou 5, je vais en dire que 2, hein, pour qui sont les plus marquants, mais pour dire comme c'est...
violent.
Violent. Hein. Voilà ce que dit l'un de ses articles, on est en 1887. « Accourez à notre secours, aidez-nous à chasser les accordéons qui écrasent notre pays. Mort à ces armoires étrangères, juste bonne à faire danser les ours. Malheur de malheur, je vous le dis, brûlons tous ces accordéons. » Voilà un des articles qui était paru en 87.
Quelle violence, oui.
D'habitude, on dit que la musique
adoucit
les mœurs.
Là, pas le cas, c'est pas le cas.
Ah ben bon,
c'est
ça.
Pas du tout le cas.
Le deuxième article, cabrettaire. Oui. Alors, un joueur de cabrette est un cabrettaire. Parce que, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, la musette, elle était faite en peau de chèvre, puisque la poche d'air, hein, puisque les Auvergnats sont un peu pauvres, donc ils vont créer leur propre instrument, et donc ils vont la faire en peau de chèvre. Et puis, comme dans le patois auvergnat, la chèvre, c'est la cabra, et bien très vite ça va donner le nom de cabrette. Donc ils vont au bal de la musette, mais avec la cabrette. Et un joueur de cabrette est un cabrettaire. Alors voilà ce que dit l'article. Cabrettaire, ne séjournez pas trop dans les faubourgs des villes, et surtout chassez de nos montagnes l'odieuse et banale accordéon, cet insinuant prostitué italien.
Ouf, oui. C'est évident.
C'est pas tendre hein, quand même.
Hein. Ah non, c'est vraiment pas tendre. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et bien naturellement, comment l'histoire va devenir très belle. Chaque population a son chef de file. Et les Auvergnats, c'est Antonin Bouscatel, qui habite au numéro 9 de la rue de Lappe, qui était nommé comme le prince de la cabrette. Et son bal s'appelait le bal Bousca, de son surnom. Quoi. Et donc là, tous les Auvergnats venaient au bal chez Bousca. Quoi. Et les Italiens, leur chef de file, ça va être Charles Péguri, qui est un tout jeune donc, Italien, qui est venu avec son père, qui s'est installé au faubourg Saint-Antoine à Paris. Et là, avec le père, il ne va pas s'entendre, le fils, parce qu'il y a des histoires d'ego, de caractère, hein, le père un peu cartésien, le fils rêveur. Donc il va quitter l'atelier et donc mener sa propre vie. Et puis il va créer un nouvel instrument, un accordéon, qu'il va modifier et qu'il va appeler accord parfait.
Ah.
Et il se dit que ce nouvel accordéon est capable de s'associer à la cabrette auvergnate. Mais bon sang, dit-il, ces Auvergnats sont têtus, ils ne veulent pas de cet instrument du diable.
Oui.
Eh bien, chahuté, rejeté, Péguri se dit que s'il en est un d'Auvergnat qui doit l'entendre, c'est bien leur chef de file, Antonin Bouscatel. Eh bien, voilà comment, un soir de 1903, prenant son courage à deux mains, Charles Péguri pénètre le bal Bousca avec son accordéon sombre.
Oui.
Il y a là une ambiance phénoménale, mais la sobriété de la pièce un peu exiguë, on se bouscule, les godillots claquent sur le sol hein, au rythme de la danse, de temps à autre il y a des cris stridents, youhou ! Et puis une odeur de cigarette, d'alcool imprègne toute la pièce mal éclairée. Dans le fond, sur une petite estrade, eh bien, Bouscatel joue de la cabrette avec son ami Baptiste à la vielle. Alors, Péguri va-t-il se faire lyncher, comme en d'autres balles ? Oui, le public va le chahuter un petit peu, mais Bouscatel a compris que l'accordéon est plus fort, que c'était l'avenir.
D'accord.
Lui qui va même dire à Louis Bonnet, au directeur de l'Auvergnat de Paris, « Louis, croyez ce que je vous dis, un jour, on jouera tous de l'accordéon. »
C'est pas trompé.
Eh bien, il va viser l'association avec Péguri, plutôt que de voir sa cabrette disparaître devant la progression technique. Et le mariage est magnifique, sublime. Mais comme l'histoire n'est pas assez belle encore... Hein, c'est comme un Roméo et Juliette. Eh bien, Charles Péguri, quelques années plus tard, va épouser la fille d'Antonin Bouscatel, le prince de la cabrette.
Tout est bien qui finit bien, voilà.
Et comme un Roméo et Juliette, eh bien, l'amour de deux camps opposés allait rassembler les peuples. Belle histoire. Hein.
Ça faisait, et puis ça faisait un bel instrument après.
Tout à fait, c'est très bien. Tout
oui,
est bien
alors,
qui finit bien.
Voilà, voilà. Donc à cette époque, on est toujours dans le style diatonique, c'est-à-dire oui. Le fameux tiré-poussé.
C'est ça, oui.
Mais c'est là, entre 1900 et 1914, on va dire, avant, juste avant la guerre de 14, les Italiens vont créer l'accordéon chromatique.
Ouais. C'est-à-dire tel qu'il est actuellement.
Ils se disent
en fait.
Que le diatonique, c'est un peu trop limité, qu'il faudrait arriver à supprimer ce système du tiré-poussé.
Ouais, ouais.
Sauf que de le supprimer, ce système, eh bien, ça va augmenter le poids de l'accordéon, rajouter des hanches. Et l'accordéon, je dirais 1920, il fait pas loin de 20 kilos.
Il est de plus en plus lourd.
Ah,
quoi.
Ouais. Ouais, ouais. Ce qui fait que les accordéonistes, à l'époque, ne peuvent pas jouer debout.
Debout, ils sont obligés d'être assis.
Ils sont
parce
obligés d'être assis.
Faut porter un instrument qui est... Combien ça pèse à ce moment-là?
19-20 kilos à ce moment-là.
Ah ouais, quand même, c'est lourd, oui. Et on joue quand même pendant longtemps, donc c'est vrai que
porter. Et alors, bien sûr, avec cet accordéon, la caprette auvergnate n'avait plus sa place.
C'est terminé.
Parce que les nouveaux rythmes, Charleston, il y a la Java, il y a pas mal de changements de tonalité avec ce nouvel instrument, qui fait que la caprette ne va pas avoir sa place et va être éjectée du bal, quoi. Alors, bien sûr, Charles Péguri et puis Bouscatel, leur histoire s'est terminée. Et se termine mal, puisque Péguri va devenir un peu dépressif devant le succès qui lui échappe. Et il va se suicider en 1930. Et puis Antonin Bouscatel va décéder en 1945 dans le plus grand anonymat. Il n'y aura que trois joueurs de cabrette qui vont suivre le cercueil.
Mon Dieu.
Donc, voilà, c'est le chromatique qui a pris toute la place.
C'est
et
ça,
tout le reste est éjecté.
Triste fin, oui.
Alors justement, puisque je parle d'Émile Vacher, Émile Vacher est l'un des premiers accordéonistes à avoir éjecté la cabrette auvergnate. On dit de lui qu'il est le père du musette, sans la cabrette auvergnate, quoi.
Ouais.
Émile Vacher. Eh bien, on va justement entendre une des chansons de lui, Reine de musette, qui se joue encore aujourd'hui.
Hein. Oui, c'est très connu.
Reine
ça.
De musette, c'est très connu.
C'est merveilleux tout ça.
Ça donne envie de danser.
C'est très bien.
N'est-ce pas?
Allez-y,
Reine de
maestro.
Musette, oui, c'est bien.
C'est beau.
Alors, que va-t-il se passer après? Bien naturellement, ça va lui donner une dimension phénoménale à ce nouvel instrument. Et ce qui fait que la France va perdre le contrôle de la fabrication à cette époque, hein, qui était pourtant en tête. Et c'est au profit des Allemands et Italiens. Et on ne va plus exporter d'accordéon, on va plutôt en importer.
D'accord.
Et dans les années folles, les fameuses années folles, on va importer 27 000 accordéons allemands et un peu moins de 10 000 accordéons italiens. Et puis en France, on comptait jusqu'à 1200 professeurs d'accordéon.
Donc ça marchait bien, oui.
Alors, bien sûr, l'accordéon vit ses heures de gloire. Là, en
c'est le moment, oui, c'est vrai.
Il va partir sur l'Amérique, bien sûr. Il va envahir l'Amérique. En 1934, elle va recevoir 20 000 accordéons. En 35, 40 000. En 36, 60 000. Et en 37, 100 000 accordéons. J'imaginais un petit peu. Le...
Et qu'il y a voir en Argentine, par exemple, où il y a les tangos, tout ça. Et c'est vrai que l'accordéon On s'aperçoit quand même que c'est l'accordéon qui prime surtout.
Oui, alors qu'en Argentine, c'est un cousin de l'accordéon qui est le bandoneon.
Bandoneon. Mais voilà. Enfin, c'est quand même proche.
Ah oui, c'est très proche. C'est le même système de fabrique. Voilà. Ouais. Alors bien sûr, 100 000 accordéons, c'est des chiffres vertigineux. Et quand on sait qu'en 1930, il fallait 6 semaines d'un labeur acharné pour faire un accordéon.
Oui, d'accord.
En 1950, il faudra à peu près 140 heures pour faire un instrument composé de la bagatelle de 1800 pièces. Mais à comparaison, aujourd'hui, par exemple, en 2019, il faut à peu près 100 heures pour faire un accordéon. Mais celui-ci, maintenant, est composé de 8500 pièces. Ouais. Et, tenez-vous bien, il faut 178 outils différents pour faire un accordéon.
Oula.
Alors, l'accordéon est en route pour la gloire. On dit de lui que c'est dans les années 30 qu'il vit ses plus belles années. Il est partout, c'est le roi du bal. Il accompagne la chanson avec Édith Piaf et puis tant d'autres chanteurs. Il accompagne le peuple ouvrier dans les grandes manifestations du Front populaire. Il s'implante dans le jazz avec les Manouches, par exemple. Et comme une traînée de poudre, il va s'étendre sur le monde. Pas un milieu ne va lui échapper, le monde paysan, le monde marin, les mineurs, le cirque, les vignerons. Mmh. Il va s'installer de partout, il rôde autour des conscrits, il va s'installer dans le Tour de France.
Avec Yvette Horner, c'est vrai. Oui.
On le trouve près des bergers en montagne. Alors là, c'est plus le petit diatonique qui est resté. Il anime les fêtes de famille, les mariages, il est sur les marchés ou fêtes foraines, il fait chanter les gens dans la rue. Les gens apprenaient les chansons dans la rue et mon père me raconte ça, lui qui était chanteur, qui allait des fois chanter en amateur.
Oui,
il n'était pas professionnel parce qu'il était paysan. Eh bien, il apprenait les chansons sur les marchés. C'est un accordéoniste et puis il y avait quelqu'un qui avait les partitions qu'il tendait aux gens et les gens apprenaient les chansons comme ça. Quoi. Alors, de nouvelles vedettes vont arriver avec ce nouvel instrument chromatique comme De Prince, Carrara, Viseur, Murena. Et puis, un peu plus récemment, bien sûr, les fameux Verschuren, Aimable, Yvette Horner et puis tant d'autres. Jean Ségurel, l'Auvergnat.
Oui, c'est vrai. Oui, oui.
Mais si la Première Guerre lui a donné une dimension phénoménale, en revanche, la Seconde Guerre commence petit à petit à voir son déclin puisque le rock arrive. Les jeunes aspirent à de nouveaux rythmes.
La guitare électrique
qui arrive, la batterie qui prend de l'importance. Ouais, ouais. Et puis les radios et télévisions qui arrivent dans les chaumières commencent à bouder l'instrument parce qu'ils sentent qu'il y a de nouveaux courants musicaux qui arrivent et accentuent un petit peu le déclin. Quoi. Donc, l'accordéon avait renvoyé la cabrette auvergnate, et bien voilà que l'histoire lui tombe dessus à son tour. On pourra dire qu'il ne se relèvera plus de cette manière. Quoi. Comme il a pu faire danser dans les années 30. Quoi. Mais l'accordéon ne veut pas abdiquer si vite. Après mai 68, les événements de mai 68, dès le début des années 70, il y a des hommes, des femmes qui redonnent des couleurs aux musiques ancestrales, les danses comme la bourrée ou autres, scottish et compagnie.
Folklorique et
autres. Voilà. Et c'est les fameuses naissances des balles folk.
Ah oui, c'est ça, oui.
Les balles folk qui vont reprendre un petit peu de la vigueur, qui existe encore aujourd'hui,
bien sûr,
avec à Bourg, il y a Folk à Bourg, qui était anciennement donc via les danses. Et puis, dans le même temps, l'accordéon chromatique va aussi reprendre un peu de la vigueur avec les balles des couples, qui deviendront plus tard thé dansant. Quoi. Des années 70, ils avaient cette appellation balles des couples. Quoi. Mais on va dire que c'est surtout avec une clientèle quand même un peu vieillissante.
C'est vrai.
La jeunesse boude quand même le musette. Quoi. Mais la jeunesse ne boude pas l'accordéon. Puisque dès le début des années 80, c'est Gérard Blanchard qui va installer l'accordéon dans le rock, avec son fameux Rock Amadour. Mmh. Et puis ça va donner l'idée à d'autres groupes modernes de l'utiliser, comme les Têtes Raides, il y a les Négresses Vertes, les Garçons Bouchers et les Garçons Trottoir, entre autres, par exemple, qu'on va entendre maintenant. Avec une chanson que j'aime beaucoup, et l'accordéon est là, c'est des musiques actuelles, les Garçons Trottoir.
Ils me rendent morose et puis ils sont trop nombreux. je vais quand même pas renoncer à m'acheter mes clopes.
Ah non,
j'ai tout juste assez, je lui donne rien. Allez hop, en plus y'a mon voisin qui met déjà la main à la poche. Et puis chantez pas bien.
Tout ça c'est du sidrache à votre bon cœur. Monsieur l'âme, une petite pièce à sourire, ça allègera votre âme. Moi ça m'aidera à dire à votre bon cœur.
Voilà un petit peu donc les groupes d'aujourd'hui comme
qui... il y a même un disque qu'on a entendu c'était il y a 2 ans, c'était Clodo Capéo.
Ah oui,
qui
oui,
était sur la place Bellecour à Lyon, et on le voyait tourner. Alors là, moi, je me rappelle de ce clip parce que ça se passe à Lyon en fait. Ça s'appelle Un homme debout.
Oui, ben je connais son instrument, qui est maintenant une forme de synthé. Hein. Voilà. Ben, je vais y venir dans quelques secondes, ouais, de ce nouvel instrument, mais c'est un instrument qui est fabuleux maintenant, on peut tout faire. Avec... Alors bien sûr, l'accordéon, maintenant il va s'étendre sur toutes ces musiques un peu modernes. On va le retrouver dans le jazz aussi, hein, et il accompagne les chanteurs à texte maintenant c'est aussi pour sa couleur. Et puis on va le trouver, enfin, il va rester dans toutes les musiques du monde. Hein. Alors le celtique, les musiques cajun, le country, les musiques tziganes. Il est même aux côtés des percus africaines, les merengues, les chamanés d'Amérique du Sud.
L'Amérique du Sud,
Le roi du chamané en Amérique du Sud, c'est Shango Spasiuk. Donc... Et puis tous les continents l'ont adopté depuis de nombreuses années, que ce soit dans les musiques trad ou musiques savantes. Mm-hmm. Hein, puisque maintenant on le trouve aussi dans les musiques classiques. Hein. Alors... Le classique, ben j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, de ce nouvel instrument, hein, donc je ne vais pas y revenir. Aujourd'hui, dans l'accordéon, eh bien, il y a le numérique qui s'est installé. C'est donc le fameux accordéon comme Clodo Capéo, qui peut non seulement jouer du musette, parce qu'il peut encore le faire avec son instrument, mais il peut jouer de la guitare, il peut jouer de tout. C'est comme un petit synthé.
C'est un synthé, en quelque sorte. Oui.
Et puis, surtout, l'accordéon du 21e siècle, mes chers amis, est né.
C'est ça.
Alors qu'a-t-il d'extraordinaire, cet accordéon du 21e siècle? Eh bien, je vous ai parlé de l'anche libre tout à l'heure, hein, une petite hanche métallique qui vibre et, avec l'air insufflé et qui donne la note. Eh bien, l'anche libre a disparu.
Ah.
Plus d'anche libre dans l'accordéon du 21e siècle. Alors, comment le son se produit?
Ben, c'est ça, voilà.
Eh bien, ils ont enregistré sur une bande de sonorité la bagatelle de plus de 5000 sons,
hein,
que ce soit donc la mélodie, les demi-tons, les accords, des sonorités différentes. Cet accordéon, il est relié à une tablette sans fil, avec lequel l'instrumentiste va pouvoir jouer, c'est-à-dire mettre des rythmes, mettre des chœurs derrière s'il le veut. Enfin, à lui tout seul, il peut être un grand orchestre. C'est assez fabuleux. Alors, oui, quand je raconte ça, des gens me disent « Oh ouais, mais c'est plus vraiment un accordéon ». Si, il garde quand même son authenticité par d'abord sa forme. Il faut toujours jouer les notes, hein, quand même. Il faut les chercher quand même. Oui. Et puis le soufflet qui garde toujours
son efficacité.
Son efficacité, voilà.
D'accord,
Donc, pucer pour faire de la puissance. On peut le ralentir pour faire des nuances et même des vibratos. C'est assez fabuleux, cet instrument. Alors maintenant, que dire de l'instrument? Que savons-nous de son futur? Comment il va rebondir? Et puis quels sont les hommes qui vont lui écrire un nouveau destin? Et puis surtout, les courants musicaux qui vont surprendre des générations futures?
Depuis le 21e siècle, c'est devenu quand même un instrument à part entière.
Ah, complètement.
Autant au 20e siècle, c'était un peu négligé, autant maintenant, ça revient à la mode.
Il était cantonné dans le musette.
C'est ça, voilà.
Il a eu sa période bourgeoisie dans le 19e, musette. Et puis maintenant, il s'éclate un petit peu partout. Voilà un petit peu l'histoire, hein, racontée brièvement, mais c'est vrai que ma conférence est un peu plus longue.
C'est bien.
quand je raconte, parce que je vais plus dans des détails pour faire un petit peu du spectacle. Voilà, en gros. Mais l'avenir de l'accordéon, nous le saurons dans 50 ans. Vous me réinviterez dans 50 ans.
Hein? Avec plaisir, tout de suite.
On prend rendez-vous tout de suite dans 50 ans.
Alors pour les auditeurs, bien sûr, avec mes musiciens qui m'accompagnent, parce que pour la conférence, moi je raconte, et j'ai un joueur d'accordéon diatonique, un joueur d'accordéon chromatique et un joueur de cabrette, la fameuse cornemuse des Auvergnats, qui a joué un grand rôle. Et on se déplace à quatre, donc on est prêt à aller de partout où on nous demande, quoi. Et maintenant, que comme nous sommes quatre retraités même, donc on peut sortir du département de l'Ain et partir plusieurs jours, quoi. Mais Radio B ne doit pas capter en dehors de nos départements.
Peut-être on capte un peu partout.
Un petit peu, oui.
Ceci.
C'est sur la Saône-et-Loire, par
là. Oui, voilà, c'est ça.
Les bords, quoi. Les
et
bords,
pour vous contacter, il faut s'adresser à vous-même.
Ah oui. Oui, à moi-même. Donc,
alors, c'est-à-dire
Philippe Pain, donc, alors, il y a deux téléphones, on va
Pain
dire le fixe.
Pain-Pélienne, comme ouais. L'arbre.
04 74 42 62 14.
Oui.
Et puis, éventuellement, aussi, le portable au 06 08 85 12 08. Et il y a également un mail, hein, pain, P-I-N, 2, le chiffre, @wanadoo.fr.
D'accord.
Voilà. C'est bien, comme
et
ça.
Par l'intermédiaire du mail, je peux envoyer le dossier de presse qui explique qui je suis,
oui.
Ce que je
d'accord.
fais, l'espace dont j'ai besoin, voilà, toute aventure. Tout en sachant que ce n'est pas des images sur vidéo, c'est des photos. Comme l'accordéon est un instrument traditionnel, je tenais à ce que ma conférence soit un petit peu traditionnelle. Donc c'est des panneaux que je déplace moi-même. Les photos ne sont pas immenses. Et c'est vrai que c'est bien de le faire devant 40, 60 personnes.
Pas plus.
Oui, yeah. Pas plus. Yeah. Oui. J'ai fait une fois devant 90, ça commence à faire loin pour les derniers rangs. Mm. Mais s'il y a 90, on peut s'arranger. Hein, il n'y a pas de souci. Hein.
Est-ce qu'il vous est arrivé d'aller dans les classes?
Dans les écoles?
Non, ça n'est pas arrivé encore dans les écoles, dans des bibliothèques. Il y en a pas mal qui m'ont
bibliothèque.
Reçu. Des clubs du troisième âge, mais des clubs du troisième âge chez eux, dans les villages.
Ah oui.
J'avais fait quelques maisons de retraite, mais les gens en maison de retraite ont déjà perdu quelques cellules, comme on dit, et ils n'arrivaient pas à suivre. C'est quand même une heure. J'ai à peu près, moi, 1h10 de texte. Puis à peu près 30 minutes de musique.
Ah oui.
Donc non, ils n'arrivent pas à suivre. Quoi.
Ouais.
C'est trop long pour eux.
Il faudrait peut-être plus de musique et moins
voilà.
De texte.
Voilà, c'est ça.
C'est vrai.
C'est ça, oui.
Mmh.
C'est tout à fait ça.
Et vous avez animé des balles déjà?
Non, j'ai pas animé de balles parce qu'en fait, moi, j'ai commencé à apprendre l'accordéon après le spectacle, donc en 2002.
Oui.
Donc apprendre à mon âge, c'est pareil, hein, à plus de 50 ans, on a déjà perdu quelques cellules aussi.
Elles sont encore là.
Hein, oui. Mais... Donc non, je joue que de petites valses, je joue devant l'apéritif familial, comme ça.
Pour votre plaisir,
voilà, pour
le plaisir de la famille.
Voilà, c'est ça.
Voilà.
Donc non, je fais pas de balle. Non.
Et est-ce que vous avez un genre musical, toujours dans l'accordéon, qui vous plaît particulièrement?
Je sais pas s'il y a un genre musical, mais il y a des musiques dans chaque genre.
Oui, ça c'est bien.
Ouais. Par exemple, dans les musiques modernes, comme on entend les garçons trottoirs, c'est quelque chose que j'aime beaucoup.
Très anglais,
oui,
ça,
c'est
oui.
Très entraînant.
Dans la musique classique, le premier morceau qu'on a entendu, c'est un de mes morceaux, mais je l'ai entendu aussi dans la toccata de Jean-Sébastien Bach, c'est magnifique.
C'est vrai, la toccata, oui, c'est vrai.
Et puis ce qui me plaît beaucoup, c'est d'aller chiner dans les musiques du monde. J'en ai trouvé jusqu'en Ouzbékistan, où là-bas, les musiques étaient réservées aux hommes.
Vous êtes parti là-bas?
Et les chants... Non,
vous êtes resté
c'est
ici.
Par Internet. Quoi.
Oui.
Un YouTube.
Oui, YouTube.
YouTube, on voit plein de choses.
Oui, parce que moi, j'ai vu sur Internet aussi qu'il y avait un couple qui faisait de musique Paris-Moscou.
Ah oui, le duo Paris-Moscou.
C'est ça,
oui.
C'était...
Oui, Domi et Maureen et Roman Chmanov.
Voilà, donc elle est bourguignonne et lui, sibérien.
Oui, sibérien, c'est ça.
Donc les musiques un peu particulières, quoi. Mais
oui,
c'est bien.
Et sont tous les deux professeurs au SNIMA, qui est la grande école d'accordéon à Saint-Sauve d'Auvergne, donc dans le Puy-de-Dôme. Où là, ils ont des élèves de Chine, de partout.
Ouais. Mm-hmm.
Parce qu'en Chine, il y a aussi... j'en ai trouvé en Égypte, autour de la danse du ventre. L'accordéoniste s'appelle Assam Ranzi. C'est fabuleux, hein, toutes ces musiques. Hiro Koito, la japonaise, tout
oui.
Ça. Mais, ouais, c'est...
Et les usines d'accordéon se trouvent où maintenant? Dans quel pays?
Ça arrivait pas mal d'Italie, quand même.
Parce qu'il y en a
encore.
Oui, il y en a en France, mais Cavagnolo,
son
ancêtre était italien. Hein,
c'est ça, oui.
Domenico
ouais.
Cavagnolo est arrivé à la fin du 19e siècle en France, vers Lyon. En fabrique vraiment française, il y a la maison Maugin, à Tulle.
Mm-hmm. À Tulle,
ouais,
voilà.
Donc voilà, c'est plus un Maugin maintenant à la tête. D'ailleurs, comme Cavagnolo, il y a eu le père, le fils, le petit-fils. Et maintenant, c'est plus un
cabanon.
Ça a été racheté, oui. Autrement, Fratelli, Crozio, il y a plein de marques. Si on commence à annoncer les marques...
Non, mais pour avoir une idée.
Oui, une idée, oui.
Ça continue de se construire même
c'est
en
c'est surtout
France,
l'Italie.
Honneur, oui, puis Honneur en Allemagne.
Il y avait les harmonicas aussi, Honneur.
Oui, bien sûr,
oui, c'est ça.
Harmonica, oui. Oui, parce que l'harmonica, il continue son bonhomme de chemin aussi. Voilà.
Est-ce qu'il y a un air qu'on pourrait réécouter maintenant que vous avez l'anthologie que vous nous avez présentée? Est-ce qu'on pourrait réécouter pour le plaisir le dernier que vous venez de passer?
Le dernier,
Les garçons trottoirs.
Les garçons trottoirs.
Oui, il doit résoudre. On a encore
avec une autre chanson, avec Pour un flirt, donc de celle de Michel Delpech. Ça, c'est bien connu.
C'est très connu.
C'est très bien. Est-ce qu'il existe une littérature de l'accordéon?
Ah oui, bien sûr, ça a beaucoup servi à construire le...
Ah, je pense.
Ah oui, mais bien sûr qu'il a fallu lire beaucoup de livres, et j'en ai trouvé 13.
13
13 livres sur l'histoire de l'accordéon. Et puis, plus que ça, j'ai eu la chance de rencontrer l'historien de l'accordéon à Paris, qui s'appelle Pierre Monichon, qui est décédé depuis.
Oui.
Et Pierre Monichon est en même temps l'inventeur de l'harmonéon, qui est le premier accordéon de concert en 1947. C'est pas d'aujourd'hui. Il avait déjà inventé ce brass chromatique, cette forme. Et je l'ai rencontré, j'ai passé une journée chez lui à Paris, ça a été passionnant. Et puis également, Jeannot Perret. Alors, Jeannot Perret, il n'est pas si loin que ça. Il est de Chambéry, c'est tout près d'ici. C'est le plus grand collectionneur au monde. Il possède 800 accordéons chez lui, de toutes les deux siècles d'histoire.
Ça doit être grand chez lui, alors.
Ah oui, c'est grand. Et il y a même d'autres instruments. Enfin, sur Radio B, on ne voit pas les images, mais je montre à mes deux assistants. Il a des instruments fabuleux. Donc, chez lui, j'ai passé un jour et demi. J'ai même couché là-bas. Et je lui avais emmené un poulet de Bresse,
région. Vous avez raison, c'est bien.
Donc voilà, grâce à ces deux hommes et la lecture de 13 livres, c'est comme ça que j'ai construit l'histoire. Alors bien sûr, moi, je ne me dis pas historien de l'accordéon, mais passionné de l'accordéon.
C'est ça, oui, voilà.
Mais les livres, ça va avec. Ben, il faut une base.
Les livres, j'ai pris ce qui m'a capté.
Bien sûr. Hein,
notamment sur le 19e siècle, la guerre entre les fabricants, qui vont entraîner l'accordéon dans la bourgeoisie.
Oui.
Puis après, Peguri-Buscatel. Donc j'ai mis en scène les Auvergnats italiens, parce que l'histoire est trop belle.
C'était très joli, c'est vrai.
On pourrait dire donc accordéon et littérature.
Accordéon, littérature.
Vous avez quelques titres en mémoire, non, peut-être ? L'histoire de l'accordéon.
C'est l'accordéon de Pierre Monichon.
Accordéon un jour, accordéon toujours.
Toujours, oui. Non, le livre de Pierre Monichon s'appelle Accordéon.
Pierre Monichon.
Ouais. Suite à Zola, autre s'appelle L'accordéon. Oui. Ils n'ont pas d'originalité. Après, j'ai plus les autres titres de livres, hein, parce que ça fait un petit moment que je ne les ai pas lus.
Oui. Non, mais c'est bien de savoir qu'il y a une littérature pour accompagner l'histoire ce fabuleux instrument qui vous passionne.
C'est sûr, oui. Et donc, justement, toutes les photos que j'ai pour ma conférence...
Vous allez faire une expo.
Eh bien, ça fait partie de la collection de Jeannot Perret. Et ces photos étaient sur la revue Accordéon Accordéoniste, qui n'existe plus maintenant, s'il y avait une revue sur l'accordéon.
Vous allez faire une expo, si vous disiez.
Ah non, l'exposition, c'est pour le Tour de France à pied.
Ah d'accord, oui.
C'est pour autre chose.
Oui, c'est autre chose. Ouais.
Mais je reviendrai peut-être pour parler de mon Tour de France à pied.
Oui, c'est ça, voilà.
Pourquoi pas ?
Vous reviendrez.
Pourquoi pas ?
Oui,
en musique.
Vous êtes passionné.
Voilà.
Et est-ce que lors de votre périple, vous avez entendu de l'accordéon, peut-être ?
J'ai cherché à entendre, j'en ai entendu en Bretagne, bien sûr,
parce que
j'ai dit, je ne peux pas quitter la Bretagne sans faire un ou deux fest-noz.
Ah oui,
bien sûr.
Et bon sang, il n'y avait jamais de fest-noz à la période où je passais.
Ah.
Ils étaient de l'autre côté, mais enfin, quand même, j'ai pu en avoir un vers l'Orient. Donc voilà, j'ai pu voir les danses de là-bas. Alors, je dirais qu'elles sont presque moins intéressantes que les bals folk de chez nous, qui sont plus variées parce qu'il y a des danses collectives, il y a des danses en couple. Et là-bas, c'est tout basé autour de l'andro, c'est beaucoup de danses en ronde. Et j'ai pas trouvé une grande diversité
c'était
dans la danse.
C'était monotone.
Voilà, c'était un peu plus monotone pour le Bressan que je suis maintenant,
mais
les Bretons.
Ça, voilà.
voilà.
Et il y a d'autres régions de France où vous en avez entendu, non ?
Non, mais par contre, d'autres régions de France, par l'intermédiaire de mon émission d'accordéon,
oui,
bien sûr, oui, dans les musiques occitanes, le Nord, l'Alsace, de partout. Hein,
oui, disons des régions bien typées. Des régions, des frontières, on va dire, à la frontière.
Oui. Comme Laurent Cavalier, oui, qui est accordéoniste chanteur, oui, qui est dans le Minervois, la Corbière, là-bas en dessous de Montpellier.
Oui.
Donc oui, c'est des ambiances. C'est aussi, j'ai trouvé vers Hendaye, groupe de basques.
Oui. Les Pays basques.
C'était des chanteurs basques, des chœurs d'hommes, accompagnés d'un accordéon. C'était magnifique.
Ça, oui.
J'ai quémandé leur instrument, leur CD.
CD, oui.
Qu'ils m'ont donné pour la radio. Donc,
oui.
Voilà, parce que il faut quémander, hein.
Forcément.
Pour avoir des œuvres.
Et pensez-vous que les jeunes s'intéressent maintenant, veulent apprendre l'accordéon de nos
jours ? Oui, parce qu'à une époque, les gamins ne voulaient pas écouter. Enfin,
non,
ça.
Alors ce qui m'embête, c'est quand je raconte que je fais des émissions d'accordéon, les jeunes qui ont 30 ans aujourd'hui me disent « Oh moi, vous savez, Verschuren est aimable. »
Oui, bien sûr.
Je dis « Mince, on n'en est plus là. » On n'en est plus là. Même moi, d'ailleurs, le musette, j'aime un peu moins maintenant, parce que je vais dans d'autres musiques. L'accordéon est capable de faire bien autre chose. Et les gens ne le savent pas encore vraiment. Parce que dans les groupes modernes, bien souvent, il est noyé dans la masse.
Oui.
Les gens, s'ils ne voient pas la télévision, l'accordéon,
c'est vrai.
Sur un CD, il est un petit peu noyé dans la masse. Quoi. Donc, on ne sait même pas que c'est un accordéon. Ça peut être un synthé. Hein.
C'est ça, c'est ce que j'allais vous dire. Avec les synthés, on fait ce qu'on veut.
Oui, bien sûr.
C'est ça.
D'ailleurs, le générique de mon émission d'accordéon, c'est un synthé.
D'accord.
Donc il faut remettre encore sur l'ouvrage, puisque certains croient que c'est uniquement Verschuren et d'autres célébrités. Il y a un travail de fond que vous avez commencé.
J'ai bien commencé. Ah oui, alors
et vous
quelque
persistez,
part,
c'est bien.
Oui, quelque part, je suis un petit peu fier d'être l'un des artisans qui remet au goût du jour cet instrument et puis la connaissance de son histoire.
De
remettre
à
la mémoire collective ces hommes comme Péguri et Bouscatel qui ont été oubliés et qui sont morts dans l'anonymat et qui
ont fait progresser quand même l'accordéon.
On danse le musette aujourd'hui,
c'est
ce que je dis, on lui doit la vie. Parce que je m'amuse à dire à la fin de ma conférence que dans les années 30, il vit ses plus belles années, il est le roi du bal.
Oui, c'est ça. Oui. Hein,
donc qui dit roi du bal dit danse. Donc un homme, une femme enlacée qui danse. Donc, donc un homme, une femme enlacée dit rencontre, dit mariage, dit enfant.
Oh là là,
et donc je me dis, en regardant l'assistance, je vous dis, combien de personnes ne seraient pas nées s'il n'y avait pas eu l'accordéon ?
Ouh là là.
Et c'est pas faux. Oui, en Alsace, j'ai souvent vu des bals en Alsace. Eh bien, là aussi, ils dansent, comme peut-être en Bretagne, comme dans ces régions qui ont beaucoup de caractère, je veux dire, par là. Et c'est très courant. Ils arrivent sur la scène en marchant en couple, deux par deux, marchant ou pas qu'à danser, mais on se comprend, et avec l'accordéon aussi.
Ah, bien sûr, oui.
Et le violon, mais il y a moins de violon que d'accordéon.
Oui, le violon, on le retrouvait pas mal dans les balles folk, quand même. Dans avec la vielle, folk. D'ailleurs. Le...
Oui, avec beaucoup de vielle, oui, c'est vrai. Oui.
Et les gens chantent aussi là-bas.
Au temps des conscrits, il y avait l'accordéon, la clarinette, les tambours.
Oui, bien souvent, c'est les cortèges de mariage aussi, oui, avec aussi. Le ménétrier,
bien sûr.
La clarinette,
ça, oui.
La ménétrier en tête, c'est bien. Mais nous vous remercions, on n'a encore pas fini, encore de la musique. On vous remercie pour, vos, pour votre voix, votre savoir et votre enthousiasme.
Mais je veux vous dire que cette émission, elle ne constitue pas l'émission de Radio B du dimanche. C'est comme un air d'accordéon.
Ah oui.
Tous les dimanches matin, de 10h à midi.
Ah, oh, mais je les connais bien.
Voilà.
André Michollet et puis Albert Belay.
Voilà, bien, c'est ça, voilà.
Eux aussi organisent.
C'était une émission spécifique, mais ce n'était pas pour court-circuiter l'autre émission.
Non, non. Et puis surtout, savoir, c'était une découverte pour nous, c'est l'histoire de l'accordéon.
C'est
on
ça,
ne
voilà.
sait pas ce qui se cache dans un soufflet, en somme.
C'est vrai, c'est
ou
vrai.
Derrière un soufflet.
Oh là là, il ne faut
c'est
pas
ça.
Le laisser monter.
Parce qu'on n'aurait pas de suspecter ou su qu'il y avait toute cette lutte qui fait appel à l'histoire, à l'immigration, les Italiens, etc. Et tout ce qu'il a fallu faire, et Paris, donc les hauts et les bas de l'accordéon.
Ouais, tout mais tout son passé et son avenir maintenant.
Voilà, alors ma foi, il va continuer, il n'y a pas de souci. Les fabricants sont là, bien sûr, ils ont baissé un petit peu hein, en fabrique. Mmh. On fait plus 800 000 accordéons maintenant, mais à moins qu'ils reviennent encore.
Déjà,
des fois, les goûts sautent une génération
c'est
ou deux.
Vrai, hein,
c'est
ça,
vrai. C'est vrai.
On découvre d'autres choses, c'est vrai.
Les enfants ne veulent pas faire comme papa-maman.
Mais bien sûr.
Oui, et ça revient après, peut-être.
Voilà, c'est ça.
Il faut du temps.
Il faut du temps.
Deux
faut
temps, trois temps, quatre temps, une pause.
Faut Donc, laisser.
On va faire la pause, mais avant, merci à Pauline qui est à la technique. Et puis merci à Gisèle, merci encore à vous qui êtes venus et qui nous avez enthousiasmés. On
Mais
en demande.
Tout le plaisir était pour moi.
Merci. À une autre fois peut-être avec le sac à dos à la place de l'accordéon.
C'est possible.
Et maintenant on repart avec In the Mood. Au revoir. Thank you.